Je ne sais pas si cette lecture vous a suscité de l'étonnement chez vous, mais il en a suscité chez moi. J'aimerais vous partager un peu quelques points d'étonnement à la lecture de ce passage. D'abord, à chaque fois que j'arrive à la fin du chapitre 20, où il est dit que Jésus a encore fait beaucoup de miracles, qui ne pourraient pas être tous écrits dans ce livre, ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. À chaque fois, j'ai envie de refermer l'évangile de Jean, parce que ça ressemble vraiment à un point final. Et non, il y a encore tout le chapitre 21, qui est jalonné de rencontres de Jésus ressuscité avec ses disciples. En fait, on n'en finit jamais. Et ça n'a pas surpris que moi, d'ailleurs, parce que j'ai regardé dans l'édition de ma traduction œcuménique de la Bible, la Tob, vous savez comment ils intitulent ce chapitre 21 ? Appendice. Comme si ce chapitre 21 était en plus, un peu superflu. Les appendices, vous savez, pour moi, c'est un peu comme les préfaces dans les livres. J'ai tendance à sauter. J'ai tort d'ailleurs, parce qu'il y a des préfaces intéressantes. Mais la question est quand même légitime. Après cet émouvant et puissant épilogue du chapitre 20, pourquoi relancer la narration ? Pourquoi raconter encore quelque chose ? Pourquoi redire encore et encore que Jésus est ressuscité, qu'il apparaît encore à ses disciples? Pourquoi? Simplement pour nous dire une chose simple, c'est qu'avec Dieu, justement, rien n'est jamais fini. Qu'il y a toujours et encore une page à écrire. Quand tout paraît, vous savez, bien bordé, bien bouclé, à vue humaine, eh bien, Dieu ouvre encore et toujours d'autres encore dans nos vies et dans notre histoire. Et en ce matin de Pentecôte que nous célébrons ensemble, frères et sœurs, bien-aimés, des communautés congolaises, malgaches ensemble, moi, j'aimerais que nous célébrions ensemble ce tout petit mot de la Bible, encore. Ce petit mot qui n'est rien d'autre que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Encore. Je voudrais le faire résonner encore, cet encore, en ce jour de fête, comme une vraie bonne nouvelle. Parce que ce petit mot sans cesse vient bousculer nos vies, nos attentes, quelquefois déçues. Il vient redonner souffle à nos projets un peu fatigués. Nous revenons du 89e synode de l'histoire de l'Union des Églises évangéliques libres de France. Et nous avons pu mesurer que les projets n'avaient pas tous abouti, loin de là. Que certains indices pouvaient même susciter un peu d'inquiétude. Et nous avons entendu aussi ce petit mot encore résonner dans nos échanges, dans les prédications. Il est venu réveiller nos imaginations assoupies et susciter aussi de nouvelles vocations pastorales. Et en plus du encore, il y a du nouveau avec une pasteur présidente de l'Union des Églises Libres de France. Et je suis sûr que si nous donnions ce matin la possibilité à chacun dans cette assemblée d'exprimer ces encore que Dieu a un jour ouvert dans son existence, il serait impossible de terminer ce culte avant demain matin, peut-être avant la semaine prochaine. Combien de pardons encore offerts ? Combien de guérisons accordées ? Combien d'amour redonné. Combien de travail retrouvé. Combien de vie reconstruite et de confiance restaurée. Je vois que vous faites défiler un film dans votre vie, là, et c'est magnifique. Tous ces petits et grands, encore, sont autant de signes étonnants qu'il y a encore et toujours pour chacun de nous, comme en cette fin d'évangile de Jean, de chapitre 20, une page de résurrection à écrire encore, une parole d'espérance à recevoir de Dieu. C'est comme ça. Avec le ressuscité, la vie continue. Encore et encore. Et c'est ce que nous dit ce chapitre 21. Après cela, après le chapitre 20, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples. Oui, nos amis galiléens ne vont pas bien du tout. Le « encore » de Dieu ne les a pas encore rejoints. Pour Pierre et ses compagnons, c'est plutôt « tant pis » que « encore hein ». Et Pierre se réfugie dans, comme on le ferait facilement nous aussi, dans le train-train du quotidien, « je vais pêcher ». J'entends le son de sa voix, le dépit, la déception, la fatigue. Et les autres qui lui emboîtent le pas, un quotidien complètement déprimant, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et c'est là, précisément là, sur ce lieu du quotidien, un quotidien désespérant, que Jésus se tient. Il n'attend pas que nous allions puiser en nous des ressources pour inventer de nouveaux projets de vie. Il n'attend pas que nous soyons mobilisés. Il n'attend pas que nous soyons en ordre de marche pour manifester sa présence. C'est au contraire, au moment où les disciples s'épuisent et ne prennent rien, au moment où ils rament, c'est qu'à le dire, dans leur vie de croyants déçus, et amer, à ce moment précis, il vient à leur rencontre. Il les rejoint et il les appelle. Il est intéressant aussi de relever que Jésus ne se manifeste pas dans un lieu spécial. Au bord du Jourdain, là où il avait reçu le baptême, ou sur la montagne, là où il avait été transfiguré, sur un lieu de retraite spirituelle, nous on dirait plutôt, ou dans un synode. Non, le Christ, le vivant, vient au cœur de notre vie. Il s'invite dans la banalité de notre quotidien, avec ses hauts et ses bas, ses blessures aussi, avec ses combats, avec ses doutes, et ses fatigues. C'est là que se tient le Christ. C'est là que se tient, par son Saint-Esprit, notre Dieu. Là, au cœur de nos routines, de nos obligations, de nos compromis, de nos défaites quelquefois. Et puis aussi de nos petits espoirs. Nous sommes ainsi faits. Un nouvel étonnement aussi, parce que c'est un partage d'étonnement hein, ce matin. Ce matin-là, au bord du lac de Tibériade, les disciples ne semblent pas reconnaître le ressuscité. Pourtant, ça fait 3 ans qu'ils marchent avec lui. Pourquoi ils ne reconnaissent pas ? Des hypothèses, on pourrait en émettre, hein, vous aussi. Mais peut-être sont-ils perdus simplement sur le plan de l'orientation de leur vie, sur le plan spirituel et sur le plan personnel. Ils sont complètement à la rue, on dirait aujourd'hui. Et aussi du point de vue matériel. Pas le moindre goujon dans leur filet. En fait, ils ne voient plus rien que leur échec, ils ne comprennent plus rien que leur déception. Comment reconnaître le vivant au milieu de cette mort ? Et puis il y a ce petit détail un peu insolite. Pierre est nu au verset 7. Je me demande qu'est-ce qu'il fait tout nu là au milieu de ses compagnons dans cette barque. Alors on se dit non mais il a sans doute quand même un petit quelque chose. Bon, c'est un détail étonnant mais je me dis c'est peut-être en connaissant l'évangile de Jean, vous savez c'est quand même un évangéliste qui truffe son évangile de symbolique. S'il voulait nous dire autre chose, s'il voulait nous parler plutôt de dénuement que de nudité physique, de ce dénuement intérieur, de la fragilité des disciples que Pierre incarne ce jour-là. Pierre, dans sa nudité, représente un peu nos vies aussi, et tant de nos contemporains. Peut-être nous sentons-nous, comme lui ce matin, un peu improductifs, un peu démobilisés, un peu fatigués et déçus de la vie, des autres, de nous-mêmes. Et nus. Et c'est là, précisément au cœur de cette situation, de cette dramaturgie évangélique que Jean nous raconte, que Jésus adresse une parole. Il adresse, à son habitude, il adresse la parole qu'il ne faut pas poser à des gens qui n'ont rien pris de toute la nuit, qui sont épuisés. Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Vous imaginez comme c'est énervant, cette parole d'un type qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas, qui vient vous dire ça alors que vous êtes bredouille. C'est à cet instant même où les disciples prennent toute la mesure de leur incapacité à trouver le sens, à trouver consistance à leur vie, que Jésus les appelle. Précisément sur ce point, c'est du plus profond de leur manque qu'il les invite à découvrir la force du don. Alors qu'ils n'ont rien, plus rien, qu'ils ne sont plus rien, Jésus les invite à détourner le regard de leur manque pour devenir des hommes du partage, des hommes de l'entraide, du don. N'avez-vous rien à manger ? N'est-ce pas précisément là, sœurs et frères, au cœur de cette traumatisante expérience de nudité, de manque, que Jésus nous invite à faire le pas de la foi, à nous faire proches, à nous faire amis de ceux qui tendent les mains et qui n'ont rien. De trouver encore et encore la force et la foi de répondre à notre vocation. N'est-ce pas cela, la vie par l'esprit ? Découvrir dans le dénuement qu'il est possible de partager le peu que nous avons et même parfois ce que nous n'avons pas. Oui, sœurs et frères, bien-aimés, c'est lorsque nous n'avons plus que nos faibles forces, quand nous n'avons plus que nos paroles et nos gestes maladroits, que Jésus nous appelle à jeter encore le filet. Jeter votre filet du côté droit de la barque. Et cette fois, ce fut la bonne, puisque les disciples tirèrent le filet plein à craquer, sans craquer d'ailleurs. Cette parole est quand même étonnante. Moi, quand j'étais petit, j'ai appris à pêcher avec mon père. Lui, son truc, c'était la truite, et c'est très différent, parce que il faut viser un endroit précis dans la rivière pour la truite. C'est très technique. Mais pour la plupart des autres poissons, je parle sous la gouverne de Daniel, vous envoyez droit devant, vous appâtez, vous attendez que ça morde. C'est bon, Daniel ? Bon. Ici, Jésus demande aux disciples d'essayer encore une fois, de refaire le geste du pécheur, mais à un endroit précis, d'être attentif à ce que l'on fait, de quitter un peu les gestes automatiques. On lance, on ramène, on lance, on ramène. Jeter à droite dans une barque, jeter le filet à droite ou à gauche, franchement, bah, ça ne va rien changer. Mais moi, j'entends cette parole de Jésus comme un appel à sortir de nos habitudes. C'est le petit truc qui éveille l'attention. À droite. À droite ? Pourquoi ? Ah bon ? À sortir de nos interprétations sur pilote automatique, si vous préférez. On réfléchit plus, on lit, on comprend, on lit, on comprend. À droite. Cherchez à comprendre autrement ce qui est dit. Cette précision à droite ajoute du mystère, en fait, à l'appel de Jésus. Il nous invite à voir la vie sous un angle différent. À faire un pas de côté, si vous voulez. Un pas de l'autre côté, plus précisément. À aller jeter un œil de l'autre côté de notre horizon habituel. Un simple déplacement peut tout changer. Il suffit quelquefois, on le voit dans nos relations interpersonnelles, d'un petit mot, d'un geste inhabituel, et nous voilà décentrés de nous-mêmes, un peu perdus, vis-à-vis de toutes ces certitudes qui mettent nos vies sur les rails et nous ramènent d'ailleurs désespérément bredouille au port, hein, ces certitudes sur les rails. Voilà, juste une petite bouffée d'Esprit Saint et nous voilà décalés, prêts à discerner la promesse d'un recommencement possible. La réalité d'une vie nouvelle encore offerte. Et il y a une dernière chose qui m'étonne dans ce récit, mais c'est peut-être la plus importante. Jésus leur dit « Apportez donc vos poissons ». Alors on pourrait s'attendre à ce que Jésus donne l'ordre aux disciples d'apporter le dîner, le déjeuner, de cuisiner quelques tranches, quelques filets de ces barbeaux du lac de Tibériade qui viennent d'être pris, de faire du feu. Mais le repas est déjà prêt. Le pain et le poisson sont déjà disposés sur le brasier. Eux qui étaient tout heureux de leur pêche miraculeuse, si fiers d'apporter au Seigneur le fruit de leur réussite et leurs bonnes œuvres. Les voici invités à se laisser servir, à manger un poisson qu'ils n'ont pas pêché. Ils ne sont pas nourris de ce qu'ils apportent, mais de ce qu'un autre leur donne. Et là, nous apprenons quelque chose de fondamental, que nous avons peut-être oublié en tant que chrétiens d'expérience. Nous apprenons que notre salut, notre réussite dans la vie, notre bonheur en Église ne sont pas liés à nos efforts, à notre réussite spirituelle, aux bénédictions méritées, aux super projets qu'on va élaborer, ni même à nos échecs, à nos doutes. La joie, la paix, l'abondance, tout cela est don de l'Esprit, don de Dieu, gratuit pour tous. Voici qui conteste les logiques du monde. Voilà qui conteste encore la logique d'un évangile de prospérité, très en vogue et très destructeur du message biblique. C'est pourquoi ce culte de Pentecôte doit d'abord être célébré comme une reconnaissance de celui qui nous aime et qui nous appelle du plus profond de notre nuit, renaître chaque jour d'une parole qui vient d'une autre rive que la nôtre. Et quand nous aurons lâché, frères et sœurs bien-aimés, ce à quoi nous tenons tant, je laisse à chacun le soin de faire la liste, hein. Nos barques, nos filets, nos poissons, nos soucis, nos vaines attentes, quand nous aurons lâché tout ça, alors nous pourrons entendre à nouveau, encore, la parole de celui qui nous tient. Plutôt de celui qui tient à nous. Jésus le Christ. Alors demain, quand nous aurons repris le chemin de nos routines, de nos train-train, parce qu'il nous rattrape toujours, hein. Enfin, moi, j'ai décidé de faire les choses à fond, hein. Je pars à Madagascar pour casser la routine. Demain, dans nos lundis de Pentecôte, quoique ça, c'est férié, c'est toujours bien, mais le mardi de Pentecôte, puissions-nous continuer à vivre encore et encore dans la nouveauté de l'Esprit qui souffle sur nous l'amour de Dieu. Vous en voulez encore ? Amen.